Radio Prague, les informations.
Appel des gouverneurs tchèques au président de la République à la création d'un gouvernement de technocrates. La Tchéquie est contre l'extradition automatique des condamnés entre les pays membres de l'Union européenne. Cognice, une conférence internationale sur la conscience et la connaissance humaine, a pris fin à Prague. Les gouverneurs des 13 régions de la République tchèque et le maire de Prague, réunis à Karlovy Vary, ont lancé un appel au président de la République lui demandant de nommer un gouvernement de technocrates dans le cas où la formation d'un gouvernement politique serait impossible. D'après les gouverneurs, en effet, la situation incertaine sur la scène politique tchèque met en danger l'utilisation des moyens financiers des fonds européens. À la réunion des ministres de la Justice des pays membres de l'Union européenne, la Tchéquie s'est prononcée contre l'extradition automatique des condamnés entre les pays membres sans l'accord de la personne et du pays concerné. Les savants pensent actuellement qu'il est possible d'étudier la conscience humaine par l'intermédiaire des programmes des ordinateurs. Ils peuvent ainsi prouver la validité de certaines théories. Pourtant, un grand nombre de psychologues refusent de comparer le cerveau humain aux ordinateurs. Une conclusion de la conférence internationale Cognice qui vient de se terminer à Prague. À Oustinablabem, en Bohême du Nord, la mairie a décidé de conserver les résultats des riches fouilles archéologiques sous le centre commercial Zdar. Les archéologues ont par exemple mis à jour une rondelle vieille de 6900 ans, un sanctuaire donc datant de l'âge de pierre. La municipalité compte fonder à ses frais une sorte de musée dans le sous-sol du centre commercial. La société autrichienne Kapsch vient de commencer les essais des portails de péage qu'elle installe sur les autoroutes et les routes tchèques. Le directeur de Kapsch, Karl Feix, en réaction à certaines informations publiées dans la presse tchèque, assure que le système sera prêt d'ici à la fin de cette année, et c'est compris. D'après le porte-parole de l'administration vétérinaire tchèque, Josef Duben, les risques de grippe aviaire en Tchéquie sont toujours présents. L'automne, en effet, est une saison à risque avec la migration des oiseaux, mais encore plus le printemps. Les deux derniers cas de grippe aviaire, rappelons-le, ont été dépistés en Tchéquie au mois de mai dernier. Pour terminer, la météo. Une météo qui nous prévoit un temps automnal pour les jours à venir, avec des précipitations pour le week-end et une baisse des températures. Fin de l'été indien donc, et arrivée des gelées matinales et des brouillards. Bonne fête quand même aux Justines le 7 octobre, d'après le calendrier tchèque. Chers amis à l'écoute, c'était le bulletin d'information avec Alain Slivinski qui vous souhaite une très très bonne écoute de la suite du programme en langue française de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Outre la situation politique dans le pays qui demeure toujours bloquée, c'est la mise sur pied de l'harmonisation des systèmes d'autoroutes tchèques et allemandes avec l'ouverture du dernier tronçon de l'autoroute autour de Plzeň en direction de Munich qui fait la une de l'actualité. Ce sera aussi le premier thème de notre programme. Nous vous informerons ensuite de la conférence internationale consacrée aux relations entre l'Union européenne et les États-Unis qui s'est tenue à Prague et qui a été saluée entre autres par l'ex-candidat présidentiel américain Al Gore. Une réponse également à la question de savoir pourquoi les femmes tchèques sont si peu représentées dans la vie politique. Nous brosserons un portrait du photographe tchèque Oldřich Karasek, victime d'un accident de la route en Ouganda, et vous inviterons à la traditionnelle course hippique que la ville de Pardubice accueillera pendant ce week-end. Le dernier tronçon de l'autoroute des 5 a été ouvert ce vendredi matin. Ce tronçon permet enfin de relier Prague à la ville frontière de Rozvadov et de faire la jonction directe avec l'autoroute allemande. Plus de précisions avec Alexis Rosenzweig.
17 ans après la chute du rideau de fer, le réseau autoroutier tchèque se connecte donc à l'Europe occidentale avec l'ouverture de ce dernier tronçon d'autoroute reliant Prague à la frontière allemande. Excellente nouvelle pour tous ceux qui avaient l'intention de faire le voyage vers l'ouest, puisque désormais le trajet Prague-Munich pourra être effectué en 3 heures seulement au lieu de 5. Jeudi, le Premier ministre Mirek Topolánek avait solennellement inauguré le nouveau tunnel de Valik et le nouveau pont sur la rivière Ohlav. Et vendredi, en milieu de journée, l'autoroute D5 entre Prague et le passage frontalier de Rozvadov, Weidhaus en allemand, a été raccordée au réseau allemand grâce à l'inauguration simultanée de l'autre côté de la frontière, d'un nouveau tronçon de l'autoroute allemande A6 entre Waidhaus et l'autoroute A93. Peter Otasek est le coordinateur des travaux qui viennent d'être achevés côté tchèque.
Z Prahy do Rozvadova na hraniční přechod motorista dojede 151 km.
De Prague à Rozvadov jusqu'à la frontière, les automobilistes vont pouvoir effectuer le trajet d'une traite sur 151 km d'autoroute, donc environ 1h15. Les rues de Plzeň sont ainsi soulagées puisque tous les véhicules pourront ainsi contourner la ville. Le périphérique de Plzeň est de 20,5 km, ce qui était également la distance parcourue par les automobilistes dans la ville. Mais à partir de maintenant, il est plus sûr d'emprunter ce périphérique et d'éviter les 17 feux avec embouteillage qu'il y avait en ville.
Plzně po dálnici je pohodlnější a bezpečnější než se spát Plzeň projíždět 17 semaforů a jeden železniční přejezd.
Et ce nouveau tronçon de l'autoroute D5 a été baptisé Via Carolina, du nom du roi de Bohême et empereur du Saint-Empire romain germanique Charles IV. Son achèvement a longtemps été bloqué par des initiatives écologistes qui mettaient en cause le projet de contournement de la ville de Plzeň. Ce projet de périphérique a coûté un total de 13 milliards de couronnes, financé par le Fonds national des infrastructures de transport et la Banque européenne d'investissement.
Une plus profonde coopération entre les États-Unis et l'Union européenne, la fin de la division de l'Europe, une vieille et une nouvelle, et le changement de politique de visa des États-Unis. Voilà le principal message de la conférence internationale « Les journées des États-Unis et de l'Union européenne » tenue les 4 et 5 octobre à Prague. Jarka Gisublova.
Étant cette année à sa 5e édition, la conférence a accueilli plus de 200 politiciens, économistes, banquiers et hommes d'affaires des États-Unis et d'Europe. L'ex-président américain Al Gore, qui ne pouvait pas venir à Prague, a salué la conférence en direct dans une retransmission de San Francisco. La conférence était une occasion de soulever les thèmes d'actualité, ceux qui intéressent les nouveaux pays membres de l'Union européenne, dont le thème des visas américains. L'ex-président polonais Aleksandr Kwaśniewski a refusé la division du continent en vieille Europe et nouvelle Europe suivant l'attitude des différents pays vis-à-vis de l'invasion de l'Irak, un critère introduit par le secrétaire américain à la défense, Ronald Rumsfeld, et qui est erroné puisque nous sommes tous européens, a-t-il déclaré, et appelé les États-Unis à modifier le plus vite possible les règles d'octroi des visas. L'ex-ministre américain de la Justice, John Ashcroft, qui était l'invité de la conférence, a dit à ce sujet, dans une interview exclusive au quotidien Pravo, que l'abolition des visas ne pourrait être menée que si les données personnelles peuvent être analysées grâce à de nouvelles technologies. L'affermissement des liens entre les États-Unis et l'Union européenne a été évoqué par le chef de la social-démocratie tchèque, Jiří Paroubek. Celui-ci, à l'opposé de certains autres politiciens, voit d'un œil optimiste le bilan de l'Union européenne. On a réussi à approuver le budget pour 2007-2013. La politique énergétique commune commence à se former et l'Union se prépare à l'arrivée de deux nouveaux membres, la Roumanie et la Bulgarie. Un autre invité à la conférence, l'ex-premier ministre israélien Ehud Barak, s'est entretenu avec politiciens européens et américains, principalement des questions liées au terrorisme. L'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder a également été parmi les invités de la conférence qui s'est terminée jeudi à Prague.
Comme le révèlent les enquêtes, les Tchèques, hommes et femmes confondus, sont en général favorables à une plus grande présence des femmes dans la haute politique. Le vœu est cependant bien éloigné de la réalité. Près de 17% de femmes à la chambre basse et 12% de femmes à la chambre haute du Parlement. Deux femmes ministres au sein du cabinet. La République tchèque est un pays signataire de conventions internationales favorisant l'augmentation du nombre de femmes dans les processus de décision. Elle est également dotée de normes législatives interdisant toute discrimination fondée sur le sexe. Et pourtant, les femmes politiciennes tchèques sont rares. Comparées à la situation dans les autres pays de l'Union, elles sont nettement plus marginalisées. Forum 50% est une association civique dont l'ambition est d'encourager les femmes en politique et de soutenir celles qui y sont déjà. Sa directrice Lenka Benerová explique.
Hlavními viníky, kteří vlastně určují složení parlamentu, to jak je tam málo žen, jsou jednoznačně politické strany.
Les principaux responsables de la situation sont les partis politiques car ils établissent la liste des candidats aux élections législatives de sorte que les femmes soient placées dans des positions défavorisées. On peut dire que ce sont les partis de gauche qui ont une approche différente. Seuls deux partis, en effet, les Verts et les communistes, ont adopté le système des quotas internes, donnant aux femmes les mêmes chances qu'aux hommes.
La femme tchèque, elle-même, a-t-elle intérêt à être politiquement active? Le sondage réalisé par Forum 50% donne une réponse univoque. 40% des femmes dans le pays seraient prêtes à se lancer. Cet intérêt est d'ailleurs confirmé par le fait que les partis politiques comptent parmi leurs membres un nombre important de femmes. Selon certaines évaluations, celui-ci correspondrait à la situation existant dans les pays scandinaves, qui peuvent servir dans ce domaine, comme on le sait bien, de modèle. Le problème en Tchéquie, c'est que les partis ne permettent pas aux femmes d'occuper des positions dirigeantes et de participer à des processus de décision au niveau national. La situation est quand même meilleure au niveau local. Lenka Benerová.
Když se podíváme na obce, města, vesnice, tak tam počet žen v politice roste.
Quand on regarde la situation dans les villes et à la campagne, on peut constater que le nombre de femmes dans la politique a tendance à augmenter. Et il est curieux de voir que plus les communes sont petites, plus elles ont de femmes maires. L'explication, d'un côté, de telles communes disposent de budgets assez minces, et d'un autre côté, elles n'offrent pas un terrain sur lequel les hommes pourraient aspirer à la gloire, au pouvoir ou à un grand prestige. Dans la haute politique, hélas, les femmes s'imposent nettement moins souvent.
Les 20 et
21 octobre prochains, les élections communales et sénatoriales partielles auront lieu en République tchèque. Le succès des femmes candidates peut être perçu comme l'un de leurs enjeux. Oldřich Karásek, 66 ans, personnalité marquante de la photographie tchèque contemporaine, a péri dans un accident de la route survenu le 2 octobre dernier en Ouganda. Magda Hrozinková retrace son parcours.
J'apporte de mes voyages une bonne nouvelle. Le monde actuel, ce n'est pas uniquement du sang et des larmes. Tel était, paraît-il, son credo. Moins connu du public que son frère Svatopluk, pasteur et ancien délégué gouvernemental aux droits de l'homme, Oldřich Karásek a parcouru, durant ses 15 dernières années, presque tous les pays du globe. Tout cela avec une seule mission, photographier pour les agences américaines et britanniques les beautés de la Terre. Dans ses livres, il a réuni des photographies remarquables de Prague. Il a sélectionné pour lecteurs et touristes les 101 villes les plus pittoresques du pays. Un autre titre éloquent d'un de ses ouvrages, « Les États-Unis vus par un Tchèque ». Son collègue Vladimir Bergus rappelle qu'Oldřich Karásek fut un des rares photographes tchèques qui ont réussi à s'imposer auprès des agences et magazines étrangers. Sa belle carrière a débuté à la fin des années 60 avec ses portraits des célébrités réalisés pour l'agence italienne Vita Press. Ainsi, Oldřich Karásek a braqué son objectif sur Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, Sophia Loren, le prince Charles ou la reine Elisabeth II, mais aussi sur l'équipage d'Apollo avant et après son vol sur la Lune. Primé au Festival de Cannes en 1966, Karásek a photographié quelques années plus tard les Beatles. 4 jours après sa mort, les grands quotidiens tchèques montrent le photographe devant un de ses clichés. En gros plan, Paul McCartney et son épouse Linda, une photo prise peut-être lors de leur soirée de fiançailles à laquelle Oldřich Karásek avait été invité.
She's in love with me.
17 chevaux s'aligneront dimanche au départ de la 116e édition de Velká Pardubicka, le grand steeplechase de Pardubice en Bohême de l'Est. Une épreuve hippique d'obstacles mythiques mais à l'histoire sinistre, pour laquelle les Tchèques se passionnent chaque début d'automne, le deuxième dimanche d'octobre venu. Guillaume Narguet.
Pour la première fois depuis 20 ans, aucun cheval étranger ne prendra le départ d'une course considérée, à juste titre, comme l'une des plus difficiles en Europe. L'année dernière, seuls 7 des 17 partants avaient franchi la ligne d'arrivée d'un parcours long de 6900 mètres et jalonné de 31 obstacles. Il y a près d'un siècle de cela, en 1909, aucun cheval n'était même arrivé au bout d'une épreuve qui, chaque année, ou presque, entraîne les blessures parfois mortelles de plusieurs chevaux. C'est au XIXe siècle que la course voit progressivement le jour. À l'époque, la noblesse anglaise aime organiser des parties de chasse à cour pour se distraire. Des groupes de cavaliers habillés de vestes colorées et accompagnés d'une meute de chiens traquent le gibier jusqu'à épuisement de celui-ci en franchissant de nombreux obstacles naturels. Très populaire en Angleterre, ce loisir cruel se répand peu à peu dans d'autres pays européens et arrive jusqu'en Bohême où la première partie de chasse est organisée en 1836 par le comte Octavian Kinsky sur son domaine de Chmulec, petite ville située entre Prague et Hradec Králové. Mais 5 ans plus tard, la chasse à cour est déplacée quelques kilomètres plus au sud-est à Pardubice, une ville et une région qui rappellent un grand parc anglais. Or, en Angleterre, dès le début du XIXe siècle, les parcours d'obstacles sont intégrés aux parties de chasse à cour. Des parcours tellement populaires qu'en 1836 se dispute pour la première fois le Grand National de Liverpool, autre course aussi mythique que terrifiante qui inspire les Tchèques et les incite à construire leur propre parcours en 1856. Mais parce que ses fondateurs désiraient un autre type d'obstacle que ceux que l'on trouvait déjà en Europe, un parcours particulièrement exigeant fut installé. Et 18 ans plus tard, en 1874, la toute première édition du Grand Steeplechase de Pardubice est disputée. Depuis, malgré les drames et les dizaines de victimes qui ont marqué sa longue histoire, la course est disputée chaque année et a trouvé une place immuable dans le calendrier mondain et sportif tchèque.
C'était donc les faits événements en République tchèque. Notre programme en français se poursuit.
Économie, commerce.
Bonjour à toutes et à tous. Pour la Roumanie et la Bulgarie, l'actualité est à l'intégration de l'Union européenne, prévue pour le 1er janvier 2007. Pour la République tchèque, elle se focalise sur l'adoption de l'euro, repoussée dernièrement à 2012. En cause, le déficit budgétaire de l'État, dont les estimations pour 2007 n'atteignent pas les critères de Maastricht. Pour redresser les finances publiques, le gouvernement de Mirek Topolánek a compté sur le marché boursier et la compagnie nationale d'électricité ČEZ. Un bon calcul ? Pour le gouvernement actuel, la privatisation d'une partie de ČEZ a permis d'éviter un déficit budgétaire record en 2007. En vendant une partie des actions de ČEZ, les autorités ont pu abaisser le montant du déficit. Celui-ci était estimé à l'origine à 119 milliards de couronnes. Parallèlement, le gouvernement a déclaré qu'il augmenterait les salaires des employés de l'État de 5% et qu'il allouerait plus de subventions aux écoles, aux universités de recherche et de développement et aux agriculteurs. Les 91,3 milliards de couronnes de déficit estimé, un peu plus de 3 milliards d'euros, empêcheront quand même la République tchèque d'adopter l'euro en 2010. Il signifie toutefois une réduction à hauteur de 3,5% du PIB, l'adoption de l'euro étant subordonnée à un déficit maximum de 3,3%. Pour atteindre un tel résultat en 2007, il faudra geler toute construction de routes et de nouvelles aides sociales. En outre, pour certaines banques, le déficit prévu est sous-estimé. De nombreux économistes tablent désormais sur 2012, au bas mot, pour l'entrée de la République tchèque dans la zone euro. Notons que la République tchèque, la Pologne et la Hongrie devraient être les premiers des nouveaux membres de l'Union européenne à intégrer courant 2007 le mécanisme ERM2, étape indispensable pour le passage à la monnaie unique. Sur le plan écologique en tout cas, la compagnie nationale d'électricité Czech rentre parfaitement en concordance avec les directives européennes. L'Union européenne compte hisser l'électricité verte à 20% de la production totale. Cela tombe bien, Czech compte investir pour les 15 années à venir 30 milliards de couronnes dans le développement des éoliennes, sources d'énergie renouvelable. Le gouvernement assure d'ailleurs que les 31 milliards de couronnes dégagées par la privatisation d'une partie de Czech serviront justement à alimenter les investissements écologiques. Côté budget 2007, la question reste entière. Passera-t-il au Parlement lors de son examen prévu initialement dans une quinzaine de jours? Pour les observateurs politiques, il y a peu de chances que ce soit le cas, le gouvernement de l'ODS n'ayant pas obtenu la confiance des députés. On le voit, la crise politique liée aux élections législatives de juin n'arrange rien. Jiří Paroubek, le leader du Parti social-démocrate, a fait savoir son désaccord pour l'avant des actions de Czech. Celle-ci conduirait, selon lui, à une augmentation des prix de l'électricité de la part des autres actionnaires. À la place, l'ex-premier ministre propose de privatiser 49% de l'aéroport de Prague, ce qui, d'après lui, permettrait de réduire le déficit budgétaire à 88 milliards de couronnes. Pour le ministre des Finances, Vlastimil Tlustý, c'est impossible, en tout cas pas avant la seconde moitié de l'année prochaine. En effet, l'aéroport de Prague a d'abord besoin de générer des actions commercialisables sur le marché boursier. La solution que préconise Vlastimil Tlustý lui-même ne semble pas meilleure. Il propose d'émettre plus d'actions de la part de Czech, renouveler l'opération en somme, et sans doute pousser la Commission européenne à sortir le carton rouge en déclarant l'action hors de la procédure. La privatisation de Czech soulève d'ailleurs la controverse sur un autre point, celui des petits actionnaires. D'après les analystes financiers, une fois les actions émises, c'est l'État, lui-même actionnaire majoritaire, qui devrait racheter les principales actions à la vente. Une situation étrange qui repousse à la case départ, et qui semble surtout injuste aux actionnaires minoritaires, qui se verraient ainsi dépossédés de leurs dividendes. Une affaire qui risque de faire autant de bruit que le scandale qui a émaillé la carrière de l'ex-vice-membre du comité directeur de Czech, Alan Svoboda, qui a dû démissionner de ses fonctions en août dernier après avoir été inculpé de délit d'initié. Et c'est la première fois que cette charge est retenue dans un procès en République tchèque. Svoboda est accusé d'avoir acheté, en avril 2005, 7500 actions Czech à hauteur de 394 couronnes chacune. Devant la montée de la valeur de l'action, il devait en acquérir 10 000 autres en mai. Bilan des investissements pour Alan Svoboda, plus d'1,5 million de couronnes de gains, soit environ 54 000 euros. Tout allait donc bien jusqu'à ce que la commission de sécurité, intégrée aujourd'hui à la Banque nationale, s'intéresse aux transactions. Alan Svoboda, qui a été transféré au poste de directeur exécutif pour les ventes, affirme pour sa part avoir ignoré qu'il enfreignait la loi en achetant des actions Czech. C'est la fin de cette rubrique économique préparée par David Allon, présentée par Alexis Rosenzweig. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est également la fin des programmes en français sur Radio Prague pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur internet au www.radio.cz ou demain, même heure, même fréquence. We'll be right back.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours.